شفت اي الساعة ده بيموت ده عشان اتوبه بعشان خي السراح elle traite relativement peu de sujets à la fois. Elle parle donc de la mort de Sarah et de tout ce qui va toucher cette mort, c'est-à-dire tout le problème de son enterrement. Et ensuite, Abraham Avinu, quand a eu lieu la Akedah, s'est dit, mais finalement, si Yitzhak était mort, il n'y avait plus personne pour continuer le projet. Et donc il s'est dit, j'ai eu tort de ne pas avoir marié Yitzhak plus tôt. Parce que si même l'avais sacrifié, en fait, peut-être il aurait eu des enfants et les enfants, les petits-enfants auraient pu continuer. Donc il s'est mis à la recherche d'une épouse pour Yitzhak. Ça fait partie des obligations d'un père de chercher à marier ses enfants. Mais en l'occurrence, le choix d'une femme pour Yitzhak était très restreint, dans la mesure où Abraham ne voulait pas d'une cananéenne, donc il fallait chercher quelqu'un de la famille d'Abraham. Et ça impliquait de sortir d'Eretz Israël. Et on avait déjà dit que Yitzhak Avinu, il avait un statut de Ola. Une Ola ne peut pas sortir d'Eretz Israël, donc Yitzhak ne pouvait pas aller chercher lui-même une épouse pour lui. Et donc Abraham n'y va pas tout seul, mais il envoie son alter ego, il envoie Eliezer avec des directives très précises quant à la femme qu'il faut choisir. Et aussi avec une fortune impressionnante. Donc Eliezer se déplace, bien sûr que s'est déplacé avec toutes sortes de gens. Il y avait toute une caravane avec Eliezer. Il a beaucoup de richesses avec lui. Et puis il a aussi un document qui montre que Yitzhak est l'héritier d'Abraham, qui est Abraham, quelqu'un de très riche. Donc Eliezer va partir à la recherche. Et donc le deuxième sujet de la Torah, celle de cette paracha, c'est la recherche d'une épouse adéquate. Et puis ensuite, il y a un peu de discussion pour obtenir que cette épouse, elle puisse venir chez Yitzhak, quitter donc sa famille, aller chez Yitzhak. Et ensuite, ensuite, on nous dit que Abraham va jouer un deuxième rôle. Il va se remarier Et il va avoir d'autres enfants. Voilà, c'est ça les sujets. Beaucoup de sujets de mariage, donc, enterrement et mariage. C'est ça le sujet, le grand sujet, si on peut parler comme ça. Alors, on va regarder quelques points un peu dans le détail. Dans le chapitre Tavdalet, au début du chapitre, Pasuk dit d'Abraham Zaken, Baba Yamim, Vachem Berach et Abraham Bakol. Abraham était vieux. Baba Yamim, il était, on traduit par avancé en âge, mais Baba Yamim, il y a une drasha intéressante, particulière, qui dit que Baba Yamim, ça veut dire qu'Abraham est venu avec tous ses jours. Vous vous souvenez peut-être des autres années, c'est une façon de dire que les jours d'Abraham étaient tous très bien remplis. C'est-à-dire que n'y avait pas de jours qui ont passé simplement comme ça. C'était toujours des jours très remplis. Tous les jours étaient présentables en quelque sorte. Le bilan de chaque jour était présentable devant Hachem. Et le pasouk dit, Hachem berach et Avraham bakol. Hachem a béni Avraham bakol, dans tout ou partout. Alors la Gemara, elle dit, Shlosha itimana kadosh baruch hu baolamaze me'en olamaba. Il y a trois personnages auxquels Hachem a fait goûter le Olam Haba, quelque chose, enfin, un goût de Olam Haba, dans Olam Hazeh. Elohim, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et d'Abraham, d'où est-ce qu'on le sait d'Abraham, sur Abraham? Abraham, dirtiv, bakol. Ça veut dire que quand la Torah dit bakol, que Abraham a été béni par Hachem, bakol, on est obligé d'entendre qu'il avait déjà quelque chose de Olam Haba dans Olam Hazeh. Parce que sinon, si on ne dit pas cela, alors ça s'appelle pas Kol. Kol, c'est tout. Et dans chacun des Avot, Bakol, Mikol, Kol, toujours le même remèze, en fait. Kol, ça inclut obligatoirement aussi Olam Haba. Enfin, les éléments de Olam Haba. Il y a une deuxième dracha. Il dit que si on prend le mot bakol, sa valeur numérique, bet c'est 2, kaf c'est 20 et lamed c'est 30. Donc ça fait 52. Et 52, c'est la gematria de Ben. Évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Hachem a béni Abraham, il lui a donné un fils. Bon, c'est écrit, on sait qu'il a donné, il lui a donné. Pourquoi le dire de cette manière-là alors que on a déjà présenté Yitzhak? Alors, Ravolvé, il disait que il pense que cette gématria, cette valeur numérique, n'est pas une dracha, mais c'est une façon de venir accentuer la chose. C'est-à-dire dire que c'est la chose la plus importante. Donc ça veut dire le pasouk, la dracha, enfin le mot, cette gématria, elle ne vient pas nous dire autre chose que ce que dit simplement le verset, en quelque sorte, mais ça vient dire que c'est l'essentiel, ce bakol. La gématria de Ben, c'est l'essentiel. Je pense que on peut relier en fait les deux sujets, les deux façons de lire. Parce que d'une certaine manière, le fait d'avoir un fils, c'est le commencement du Olam Haba. Comment fonctionne le Olam Haba? C'est que, voilà, on va sortir de son propre temps pour aller vers le futur. Et le futur extrême, c'est Olam Haba. Donc, le Ben, c'est aussi un mot qui fait référence à la notion de binyan, construction. C'est-à-dire avoir un enfant, c'est construire un futur. Et la construction du futur, elle est, pourquoi on a besoin de ce futur? C'est pour nous amener à Olam Haba. Donc c'est les deux drachot, elles disent un peu la même chose. Ça, c'est d'après enfin, ce qu'on a dit Rashi. Le Ramban, sur place, il dit la chose suivante. Il dit où le raboté nous baisait Inyan Nifla, nos maîtres ont quelque chose d'extraordinaire à dire à ce sujet. Bachem Berach Tavram Bakol, Rabbi Meir Omer, Shelo Haïta Lobat. La bénédiction, dit Rabbi Meir, c'est qu'Abraham n'avait pas de filles. Acherim, d'autres disent Bat Haïtalo ou Bakol Shma. Il avait une fille et Bakol c'était son nom, le nom de la fille. Aval, je continue le Ramban. Aval Acherim, Chitchou, Beferush, Akatou, Vazé, Inyan, Amok, Meod. Mais en fait, les Chachamim, quand ils ont dit, ceux qui ont dit que il avait une fille qui s'appelait Bakol, ils ont dit quelque chose de très très profond, dit Ramban. Ils ont ici dévoilé, enfin, ils ont parlé de quelque chose de très profond de la Torah. Ils ont dit que le mot bakol fait référence à quelque chose de très grand, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a une mida qui s'appelle kol. Puisque Hachem est le fondement de tout, Uban Ne'emar, et à ce sujet-là, il est dit, Anochi Hachem osé kol. Moi, Hachem, je fais tout. Vehi amida ashminit miyod gimel midot. Dans les 13 midot de Rachamim, la huitième, c'est notre chesed la alafim. Donc, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il garde du chesed pour des milliers, en fait. Il a aussi une autre mida qui s'appelle bat, qui est une mida dérivée de la précédente. Ou Baoumanig et Akol. Et avec cette mida-là, Akadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est-à-dire, c'est la malchoute, si vous voulez, c'est la royauté d'Hachem. Cette mida-là, elle était pour Abraham comme une fille. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme de chesed, ça correspond à la mida chez Hachem de notre chesed l'alafim, et Abraham, il a mis en œuvre le chesed, c'est pas seulement quelqu'un qui faisait des discours que sur l'importance du chesed, mais concrètement, il mettait en œuvre le chesed. On voit ici, à partir de ce Ramban, combien on doit être très prudent quand on explique les paroles des Chachamim. Parce que Bepashtout, si on lit un peu superficiellement, un texte qui dit il avait une fille, elle s'appelait Bakol, on pourrait en déduire hardiment qu'on vient nous dire le nom de la fille. Et le Ramban dit pas du tout. Le Ramban nous a montré combien c'était quelque chose de profond. C'est-à-dire, vous avez un texte qui semble dire une banalité, et le Ramban dit c'est extrêmement profond. Alors, si on veut essayer d'expliquer un peu ce qu'a dit Ramban, Ramban a dit Kol, c'est chesed. Et la mida qui dérive du chesed, c'est malchut, la royauté. C'est-à-dire la façon dont Hachem gouverne le monde. Gouverne ce tout, ce kol. Ça veut dire que les midot, les mesures, en fait, les façons dont Hachem gouverne le monde, ces midot-là, ce que Ramban nous dit, elles existent aussi chez les hommes. Ces midot-là, ces façons de diriger le monde, il y en a en vérité une infinité. Mais il y en a quelques-unes qu'Hachem a dévoilées. Dans la Torah, si on en a énuméré 13, ou quel que soit le chiffre qu'on aurait choisi, c'est un certain nombre de midot d'Hachem qu'il a voulu dévoiler. Bien entendu, il ne faut pas se tromper, on n'est pas en train de parler d'attributs divins. Ce ne sont pas des attributs, c'est des façons avec lesquelles Hachem gouverne le monde. Sur Hachem, on ne peut rien dire du tout. Il y a même pas de nom non plus. Et même le tétragramme, ce n'est pas du tout un nom d'Hachem qui nous dirait quelque chose sur Hachem. Le nom de quelque chose, c'est un dévoilement de ce qu'est la chose, un dévoilement compréhensible par les hommes. Alors bien entendu, ce qui concerne Hachem, on n'y comprend rien, et donc il ne peut pas y avoir de nom. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem a dévoilé certaines midot? parce qu'il veut que nous pratiquions nous aussi ces midot. Que de même que lui, il gouverne le monde selon ces midot-là, il veut que nous nous gouvernions aussi selon ces mêmes midot. Si Hachem a dévoilé la mida de Chesed, c'est pour que l'homme pratique le Chesed. Et effectivement, celui qui a créé le peuple juif, en fait, il est caractérisé par le fait qu'il pratique le Chesed. Avraham Avinu, c'est le Chesed. Maintenant, ce Chesed, c'est des grandes idées. Maintenant, il faut les réaliser concrètement. Et ça, c'est la malchoute, c'est la royauté. Pour que l'homme acquiert cette qualité de royauté, c'est une qualité que qu'Abraham a acquise, comme c'est marqué dans le passouk, que les gens d'Éphron, les goïms là-bas, ils lui ont dit « Nasi Elohim ata betochenu »« Tu es un prince d'Elohim parmi nous. » Pourquoi? Parce que Hachem a dévoilé la royauté divine. Il a dévoilé qu'Hachem gouvernait le monde. Zal nous disent que cette mida de Malchut chez Avraham Avinu, c'était comme une fille pour Avraham Avinu. Lui, il était chesed, et de ce chesed-là, il en est arrivé à être comme un melech, Nasi Elohim. C'est ça le but de l'exercice. Et on voit aussi dans le Ramban qu'on a ici, que je vous disais, c'est un shoresh, une racine du Olam Haba. C'est-à-dire plus exactement, plus précisément, des temps messianiques. Celui qui va dévoiler la royauté divine sur le monde, ce sera le Mashiach. Et ça, cette capacité-là, elle existe déjà d'une certaine manière chez Abraham Avinu. L'amida de Chesed dont on parle chez Hachem, elle se dit, Notzer chesed la alafim. Ça va se dévoiler chez celui grâce auquel la royauté d'Hachem va se dévoiler dans le monde, dans tout le monde. Chez Abraham, c'était déjà un commencement. Dans l'espace dans lequel il vivait, il a été reconnu comme Nasi Elohim. Mais ce n'est pas encore la Géoula. Ce n'est pas tout le monde. C'était la région de Hébron, quoi, quelque part. Et pourquoi est-ce que, effectivement, ça. Où est-ce qu'on voit clairement que ce n'est pas encore ça? C'est que les gens ont continué de pratiquer l'idolâtrie. Ce qu'Abraham Avinu a fait, il a réussi à le faire au niveau de la racine du clan d'Israël. Mais de telle sorte que, à la fin des temps, grâce au clan d'Israël, ça va pouvoir se dévoiler. dévoilera seulement avec le Mashiach. Mais parce que les choses ont, c'est toujours des processus de croissance, de développement. Si vous voulez, le noyau, la graine, c'est Abraham. C'était tout son travail à Abraham, arriver à ce que les gens reconnaissent Hachem. C'est ça le Bat Kol, c'était comme une fille, c'est-à-dire comme une prolongation de lui.
La mise en pratique concrète, la mise en œuvre concrète
Du Chesed, qui s'appelle Malchut. Le dévoilement lui-même, c'est ça la Malchut, c'est-à-dire ce dévoilement, ça veut dire concrètement, c'est très joli, ton discours il est très bien, mais il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif, il y a des gens qui ont besoin de ceci, de cela, il faut les aider. Ça, c'est le dévoilement du Chesed. C'est la mise en pratique du Chesed. Ça s'appelle royauté d'Hachem. C'est ça la royauté d'Hachem. Puisque la royauté, c'est le roi, c'est celui qui dirige. Donc la direction qui est appliquée, c'est les principes de cette direction-là sont des principes qui viennent du Chesed.
C'est ça qui permet au peuple de reconnaître en un grand
Alors, c'est les gens dans le voisinage, ils reconnaissent, ça leur a parlé visiblement, ils ont dit Nasi Elokim Atah Betochenu. Et donc, c'est une racine, c'est une graine, une racine, un commencement de quelque chose qui va devoir se développer, et qui va avoir des hauts et des bas, à cause de l'idolâtrie, etc. Jusqu'au temps messianique, où à ce moment le Mashiach, lui, c'est celui qui va faire en sorte qu'il viendra un moment où les choses se feront, où on reconnaît Hachem partout, c'est-à-dire où il y aura du chesed partout. Les gens ne vont pas se convertir au judaïsme pour autant, mais du chesed, il faudra en avoir. C'est pour ça que dans l'autre chiot, j'avais expliqué que les goïms qui n'ont pas cette notion de chesed, ils n'ont rien à voir avec la Torah. Le chesed, c'est obligatoirement quelque chose où on doit se dépasser et s'occuper de l'autre pour l'autre et pas pour moi, parce que je peux aussi m'occuper de l'autre, mais en fait pour le manipuler.
Peut-être qu'à partir de l'exemple d'Abraham et puis l'aide d'Hachem, on va tous faire de plus en plus et ce sera pas Moshiach,
C'est
non?
ça.
J'ai pas besoin que ce soit un monsieur.
Pardon?
Pas besoin que ce soit un homme,
Non, ça
Moshiach.
peut être une femme. Oui,
Oh, mais non, c'est un état. C'est un état.
c'est-à-dire que le Mashiach, cet état-là, il se concrétise par le fait qu'il y a quelqu'un. Il faut qu'il y ait un patron dans l'affaire. On a besoin sinon, ça ne marche pas.
D'un patron de femme, d'être humain.
Oui, tout à fait. Non seulement parmi nous, mais a priori c'est un roi, et les rois doivent être, ne peut pas être des rois étrangers. Faut pas prendre un roi argentin ou je sais pas. Ou...
Parce qu'on n'a pas de quoi, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite alors.
Pourquoi pas pour tout de suite?
Bah, lui, il est le roi. Bah, il va arriver. On la force.
Justement, lui, c'est peut-être quelqu'un qui va se dévoiler. Il se dévoilera.
On a un roi caché. Lui, c'est tous les rois.
Un Gemara qui dit qu'il est à Rome et que il attend de se dévoiler, quoi. Et ils savent, ça veut dire.
Une fois, parce que j'ai ça pour le service de
Pardon?
la vie. Il y a pas que j'ai ça.
Rome, c'est ça.
Pourquoi il veut dire quoi?
Ça veut dire que l'ennemi d'Israël empêche le Mashiach d'arriver.
Par rapport à cette chose, vous avez dit que les Noirs qui n'ont pas de recettes, ils n'ont rien à voir avec la Torah. Mais dans ce qu'on a décrit, les Noirs n'ont pas de recettes. Les Noirs n'ont pas de recettes. Dans ce qu'on a décrit, à chaque fois, la chaîne qui va être faite, c'est
Globalement, c'est-à-dire à l'échelle d'un peuple, il n'y a pas de recette. Mais à l'échelle individuelle, il y a des gens qui ont des recettes, bien sûr.
alors, dans le temps de ma chère, ça sera à l'échelle du
Du monde entier.
recette, là, dont on parle. C'est un recette de...
Recette qui consiste à, quand tu vois trois Arabes, tu vas les faire manger chez toi. Tu vas insister pour qu'ils viennent manger chez toi. Ils t'ont rien demandé. Ils t'ont rien demandé.
Non, c'est pas aujourd'hui, sûrement pas. Je ma volonté à moi, ils sont complètement.
C'est ça. Lui, il était Abraham quand il les fait entrer. Il est entièrement. Tout ce qu'il veut, lui, c'est les rapprocher d'Hachem. Non, mais c'est un travail quand même. N'oubliez pas, Abraham, il est né idolâtre. Si vous voulez, si ça sort, si c'était inné, il n'aurait aucun mérite.
D'Amérique, on a en nous. On
On
a
a en nous, mais on a aussi le contraire.
il a le mérite d'écouter, de travailler sa nature. Il avait tout ça en lui.
La
Je
nature,
crois que c'est d'ailleurs.
c'est ce qu'Hachem, c'est une des façons, une des façons d'Hachem de se révéler de se révéler. La nature, les lois de la nature, elles viennent d'Hachem.
Nous, on l'a en nous parce qu'avant la nuit, il faut déjà, mais lui, peut-être qu'il ne l'avait pas, il a travaillé. Donc, il ne peut pas partir de rien avoir des pas possible.
Probablement que Hachem, quand il a créé l'homme, il lui a donné. Il y a pas, au départ, il n'y a pas vraiment Yetzer HaTov, d'après ce que Chazal dit, il n'y a que des Yetzer HaRa, mais il y a quand même quelque chose qui va pouvoir se développer au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, quelque chose de l'ordre du Yetzer HaTov. Ne serait-ce qu'un regard critique sur les Yetzer HaRa.
J'ai l'impression qu'on dit que c'est aller faire un rituel comme ça dans son père et du enfin. C'est un rituel qui relève du cœur. Certaines imaginent aujourd'hui savoir faire du rituel.
Ah. Vous voulez, il y a un degré de chesed où je m'efface complètement. Je suis entièrement au service du dévoilement d'Hachem. C'est-à-dire que les gens apprécient le chesed et qu'ils savent le rattacher à qui de droit. À partir de ce chesed, dire merci à Hachem, et pas eux, ils veulent dire merci à Abraham. Abraham dit, mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Hachem. Oui, lui, il s'efface complètement. Je ne suis que le canal par lequel vous allez arriver à remercier Hachem. J'existe pas moi-même. Je veux rien pour moi, même pas. Je veux pas un pourcentage. Je suis celui par lequel ça passe. Un peu comme des images qui disent que quelqu'un qui fait de la musique, un pianiste, etc., il arrive un moment où il est ce canal par lequel la musique passe. Et si maintenant il est en train de se demander Est-ce que je joue bien? Est-ce que ça me vaudra des engagements supérieurs, supplémentaires? Est-ce que j'aurai le prix Nobel? Est-ce que, etc. Évidemment, ça, c'est plus la musique, quoi. Donc, c'est sûr que c'est difficile. La chesed, dans la version Abraham, la chesed, c'est nous, quand on regarde. Quand vous regardez Abraham qui est à la porte de sa tente et qui est malade parce qu'il n'y a personne, nous on a l'impression que ça se traite, hein. C'est une maladie. La maladie, elle est telle qu'Akadosh Baruch est obligé de lui envoyer de parachuter les trois anges déguisés en arabe. C'est une obsession, quoi. C'est pas.
Mais c'est une règle, puisque Hachem a fait, qui est un dosage, je sais.
Non, alors oui, il y a en fait ce qu'on va dire par la suite, c'est que le chesed d'Abraham, il était trop grand, et il a fallu éliminer quelque chose, c'est l'élimination d'Ishmaël. Même que la gvoura d'Yitzhak était trop forte, il a fallu éliminer Esaf. On est arrivé à quelque chose de suffisamment parfait pour qu'on n'ait plus besoin d'éliminer qui que ce soit chez Yaakov. Ça, on dit mitato shlema, c'est-à-dire tous les enfants sont dans le bon chemin, bien que on nous raconte des choses terribles sur ces fameux enfants. Mais bon, ils sont bien.
Le côté Abraham, qui va maintenant chez le cousin, ça veut dire quoi dans notre évolution à nous?
Non, c'est quand on parle d'Abraham, Abraham, il a un message, il a une raison, et le transmetteur de ce message, c'est Yitzhak. Hachem a dit, Abraham a dit, mais peut-être tu peux faire en sorte que Ishmaël devienne un type bien et que ce soit lui mon successeur. Hachem a dit non, il y aura un enfant avec Sarah, tu l'appelleras Yitzhak et c'est lui qui sera ton successeur.
Penser que la suite, et quand je dis cette question, c'est moi qui comprends, mais c'est plus ici pour le penser que la suite d'Abraham n'est pas quelque chose de super grand quand même. Même, d'accord, il a donné Israël qui est le sommet, mais son essence qui est partie de lui, un autre enfant, une autre génération qui est partie de lui est automatiquement grande. Alors,
Alors, Ishmaël est devenu, parce qu'Abraham l'a demandé, Hachem lui a dit, oh, Ishmaël, Shmaticha, je t'ai écouté, il va devenir un grand peuple. Il devient un grand peuple. Ishmaël, c'est un peuple qui va accompagner Israël jusqu'à la fin des temps. Ouais, en fait, il va faire tchouva, Ishmaël lui-même. Mais pas ses enfants, quoi. Les enfants, les descendants d'Ishmaël, eux, ils ne feront pas obligatoirement tchouva. En même temps qu'il y en a qui vont faire tchouva et d'autres pas. Mais à l'échelle du peuple, le peuple des descendants en question, lui, il s'est disqualifié aussi. Alors, Eliezer va aller il va partir à la recherche. Et bon, vous connaissez, tout le monde connaît l'histoire. Et il va trouver Rivka. Et évidemment, il va voir que tout ce qui est arrivé, tout ça, c'est arrivé, c'est du. Là aussi, il dit, Eliezer, quand il comprend que Rivka est la bat Betuel, qu'elle est de la bonne famille possible, etc., alors il dit, Baruch Hashem Elokei Adoni Abraham, Asher lo azav chasdo. Hashem n'a pas arrêté de lui faire son chesed, va mito, et il est vrai, quoi, comme il l'avait dit. Mais il m'a donné un autre. Parce, pourquoi? Puisque moi, j'ai simplement demandé et tu m'as envoyé tout de suite la femme adéquate. Alors, on peut se demander, quand il dit, je comprends quand il dit, Lo azav chasdo, comprends, Hachem l'a aidé. Mais c'est quoi vraiment amito? Amito, c'est la chose émette. Alors, le émette, en fait, c'est que ce chidouch, il devait avoir lieu. Et le chesed d'Hachem, ça a été que c'est comme ça vraiment que ça s'est fait. Parce qu'on aurait pu imaginer que, je ne sais pas, que Eliezer en prenne une, ce ne soit pas la bonne, que Yitzhak divorce, que finalement on recherche une autre femme, et peut-être la deuxième ou la troisième sera la bonne. Le Hémet, c'est. Voilà, c'était tout de suite la bonne. Alors, on voit tout de suite que Eliezer, quand Lavan, le frère de Rivka, s'est aperçu que Eliezer était là avec tous ses troupeaux, tous ses trésors, pardon, effectivement, les troupeaux de chameaux, etc. Alors, tout de suite, il a commencé à essayer de mettre un plan pour faire main basse sur tous ses trésors. Et le projet a été mis en œuvre. Ils ont essayé d'empoisonner Eliezer. Bon, là aussi, il y a encore un miracle, finalement. Tout ça, c'est du chesed pour Abraham. Et c'est Bethuel qui a bu la boisson empoisonnée. Bon, donc ils ont été impressionnés, ils ont vu que ça marchait pas trop. Ils ont essayé de, ok, essayer de parler à Rivka, qui était très jeune, en pensant que peut-être si elle dit qu'elle veut bien l'épouser, mais que elle voudrait que qu'on reste encore un peu de temps, etc. Le temps qu'il monte un nouveau scénario pour le tuer, quoi, et pour faire main basse sur les trésors. Et bon, mais non, et tout à coup, cette fille-là, qui a l'âge de prendre une paire de claques quand elle parle comme ça, mais elle dit à ses parents, tout de suite, j'y vais, même si ça vous plaît pas. Bon, c'est pas un super modèle de. Ils n'ont encore rien dit. Elle a compris que ça leur plaît pas tellement, mais elle leur dit tout de suite. Et alors, ce qui est curieux, ça, je ne sais pas vraiment le comprendre, parce que quand elle part vraiment, alors c'est marqué, Vaivarchu et Rivka. Ils ont béni Rivka, Lavan, sa mère. Ils lui ont dit, Achotenu, Atayi le Alfer Vava, notre sœur. Que tu deviennes des milliers de myriades. Virash Zaracha et Char Sonav. Que tes descendants héritent, c'est-à-dire qu'ils dominent tous les ennemis. Qu'est-ce que c'est que ces Alfer Revavot? Alfer Revava qu'il a dit. C'est réminiscent de ce qu'on dit quand on sort la Torah, le Shabbat par exemple, où on dit, on parle là-bas aussi de d'Alfei Revavot, et on apprend là-bas que Alfei Élève, c'est d'un millier. Alphée, c'est un pluriel. Donc, le plus petit pluriel, c'est 2000. Et une rubaba, c'est 10 000. Et c'est au pluriel. Donc, c'est 20 000. 20 000 plus 2000, ça fait 22 000. C'est le minimum du clan Israël. Et c'est à ça que fait référence Lavan. Il donne à Rivka une bracha que le clan d'Israël, qui va donc être descendant de Rivka, ce clan d'Israël, c'est 22 000, bah, qu'il soit vraiment de toi. Que tu sois toi la source des 22 000, la source du clan d'Israël. Et c'est intéressant que c'est cette bracha-là que nous continuons à travers toutes les générations à donner à toutes les kalot. Une kala entre sous la coupa, elle entre avec cette bracha. Paradoxal qu'on n'a pas trouvé mieux pour donner une bracha à une kala que d'utiliser la bracha de Lavan. Mais la bracha est assez extraordinaire, en fait. La bracha, c'est je te souhaite de devenir la source du clan Israël. Donc c'est énorme ce qu'on souhaite. On souhaite que le clan Israël passe par toi. Alors, non, il y a déjà une source, mais que chacun, chaque femme qui, chaque kala, on lui souhaite de devenir quelqu'un par laquelle le clan d'Israël va se développer, en fait. Que toi, tu vas contribuer à produire ce noyau du clan d'Israël, ces 22 000 là. Vous voulez, à la limite, on peut se. On, je pourrais répondre et dire comment est-ce qu'on peut envisager que Lavan soit le frère de Rivka? Ils ont été élevés en même temps, dans la même maison. On a élevé ce Lavan, voleur, roublard, etc. Et Rivka. C'est quand même celle qui va obliger son fils à tromper son père. Hein? Rivka. Donc c'est parce que c'est nécessaire. Et des fois, on a besoin d'une certaine mida, on verra ça la semaine prochaine. Cette mida de Sheker, elle était nécessaire. Mais en même temps, c'était un Sheker par rapport à son père, mais c'était aussi un Emet par rapport à sa mère. Il a fait ce que sa mère lui a ordonné de faire. Et sa mère, sur ce plan-là, elle était prophétesse. Elle, c'est Hachem qui lui a dit qui était Laban, qui était Essaph. Et c'est de la prophétie, parce que si elle l'avait compris elle-même, elle aurait pu en parler à Yitzhak. Pourquoi elle lui en parle pas? Parce que c'est venu par prophétie. Et on a déjà dit souvent, les prophètes, ils doivent dire ce qu'on leur a dit de dire et ne pas dire ce qu'on leur a pas dit de dire. Il y a. Il a quand même donné une bracha à sa sœur, et cette bracha, le problème, c'est qu'on avait tellement peur qu'on considère que l'enfant de Rivka soit le produit de la bénédiction de son frère, que Rivka est stérile pendant pas mal de temps. Pour qu'on puisse pour qu'on puisse dissocier complètement la bénédiction de la vanne avec le fait d'avoir un enfant. On ne voulait pas. Il a donné une bracha extraordinaire, mais on ne veut pas de cette bracha pour, effectivement. Mais on veut que, on veut dissocier la vanne de la bracha, quoi. On veut que la bracha se réalise, mais qu'on oublie que c'est la vanne, quoi. Qu'on, oui, mais là, probablement, il a été inspiré, visiblement. Pourquoi il a dit, c'est une bracha, c'est pas une bracha standard, je veux dire, elle est devenue Torah, mais elle est devenue Torah dans la bouche de Lavanne. Oui, mais on ne voulait pas. On a voulu la dire. Visiblement, enfin, certains disent que c'est ça la raison pour laquelle Rivka est stérile au début de son mariage, pour qu'on, pour dissocier complètement, pour enlever le, enlever la vanne, quoi, quelque part. Sarah, elle avait d'autres problèmes. Ici, c'est un problème. Ça, c'est une nouveauté. C'est le premier mariage juif, en fait. Ce mariage de Rivka-Yitzhak, le mariage Sarah-Avraham, il vient d'avant. Un jour, j'avais dit au d'un chiour, il y a longtemps, j'ai dit que il y a dans le monde, de toute façon, même à l'intérieur du clan d'Israël, il y a des gens qui sont le terreau grâce auquel certaines plantes vont pouvoir pousser. La Gemara, elle dit, il y a 1 000 enfants qui entrent au Talmud Torah. Il y en a 1 000, il y en a un qui sort. Bien. Il y en a 1 000 qui entrent à la Yeshiva Ktana, à la Mishnah. Il y en a un qui sort. Alors, les autres, à quoi ils ont servi? Ils sont ce terreau. Nous sommes le terreau pour que quelques-uns se développent. Et donc, chez les goyim aussi, ils jouent un rôle, les goyim. Après, vous voulez, si vous voulez, ce qu'on a dit au Shiur sur les goyim là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit que les Juifs n'ont pas bénéficié de ce que les Romains, les Perses ont fait. Ils l'ont fait. Mais on dit, mais vous, on vous a dissocié. C'est pourtant eux qui l'ont fait. C'est eux qui les ont fait, ces foires, ces ponts, etc. C'est bien les goyim qui les ont construits. Et les Bnei Israël en ont vraiment profité. Oui, mais on ne leur attribue pas. Donc on, pourquoi? Parce que leur démarche était mauvaise. Elle était complètement stérile, il n'y avait pas de recette du tout. Et pas de recette, alors, ça n'a rien à voir quand on vient évaluer la chose. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Lavanne, d'après cette lecture qui dit que c'est pour ça que Rivka n'a pas d'enfant tout de suite. On va enlever Lavanne, séparer la bracha, que nous reprenons à notre compte et qu'on souhaite à toute Kala, c'est quand même, il n'y a pas d'autre bracha qu'on souhaite à toute Kala. Dans le Bedek,
Il y en a un qui va réussir pour tout. Je sens que c'est le schéma du tout le plan d'Israël à chaque fois. Il y a eu comme une. On va comme dans un canal où c'est élitiste.
oui, c'est très élitiste.
C'est très
C'est
élitiste.
élitiste, mais au sens où ça n'a pas d'importance. On s'efface. L'élitisme, c'est il faut développer la Torah. Alors, il y a des gens qui vont développer la Torah en entretenant d'autres gens qui vont étudier.
Mais il me semble, je ne sais pas si on peut le comparer, le schéma de la vie, de la fécondation. La fécondation.
Oui, c'est surdimensionné. Tout est surdimensionné, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin.
Mais il faut tout cet enfant ou qu'il y en ait un qui fait comme
On n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi, mais personne ne sait pourquoi.
Mais ceci, c'est comme le. Mais à dire, la course, moi, c'est pas vers le vélo, mais je suis les courses de vélo. Le peloton, on ne peut pas dire qu'il sert à rien. Il sert à coacher celui qui va réussir. Alors, je n'ai pas
Un
compris.
spécialiste du vélo, d'accord.
Alors, je ne suis pas du tout. Mais
D'accord.
j'aime bien regarder.
Non, mais l'image de la vie, la transmission de la vie est parfaite.
C'est vrai partout, mais c'est bien pour les gens qui doivent
Oui, non,
passer
ça.
la vie.
On ne sait pas pourquoi c'est tellement.
L'utilité de chacun avec la vie. Quand vous nous dites que vous allez partir dans les chinois, je n'ai pas envie l'autre parce qu'Hachem m'a donné ce qu'il me faut pour faire ce que j'ai envie de faire. Et bien chacun a, avec les éléments, ce pourquoi. Il n'est pas plus, il n'est pas moins. Parce que sans eux, la vie n'arrive pas, n'est-ce pas? Donc tout le monde est utile à des postes différents.
C'est ça, c'est chacun dans un terreau. Le terreau n'est pas inutile. Les éléments constitutifs du terreau en question sont tous fondamentaux, bien sûr, et ce n'est pas eux la vedette, mais ils sont là fondamentaux et ils jouent et ils auront un salaire, si on peut parler comme ça.
Et on il y a aussi de la déco, il n'y a pas de vedette. Il y a le job de chacun, son job, c'est d'arriver.
Voilà, c'est ça.
C'est formidable, c'est beau comme tout ça. Et ça devait apporter la paix.
Alors maintenant, elle arrive sur son chameau avec Eliezer. À l'horizon, il y a un bonhomme là, semble-t-il suffisamment effrayant pour qu'elle en dégringole de son chameau. Et alors la Torah nous dit. Ve'itzrak bo, ibo be'er lachai roi, ve'u yoshev be'eretz ha'negev. Il vient de ce be'er lachai roi. Vous vous souvenez, be'er lachai roi, le puits du vivant qui me voit, c'est le nom d'un puits. Et celle qui a donné ce nom au puits, c'est Agar. Et donc, qu'est-ce que Yitzhak va faire là-bas au puits d'Agar? Rashi. Rashi dit, Shalach le'avi Agar le'Avraham aviv, c'est Issaena. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont descendus du Moria, après la Akedah, Yitzhak a dit de son côté, et Avraham de son côté. Et donc, Avraham, à ce moment-là, il est pas marié. Il n'est plus marié puisque Sarah est morte. Qui est-ce qui lui cherche une femme? Yitzhak. Yitzhak cherche une femme à son père. Et qui est-ce qui choisit? Alors, il choisit une femme qui va s'appelle Ketura. Mais Rashi dit Ketura, c'est Agar. Et là, la référence à Be'er Lachai Roi, ça a l'air de. Tout le monde ne dit pas comme Rashi, mais ensuite il faut qu'il se batte, expliquer pourquoi il est bien Be'er Lachai Roi. Il est allé chercher Agar, il amène la rivale de sa mère, et sa mère n'est plus là maintenant. Yitzhak, tellement proche de sa mère, il va chercher une femme pour Abraham. Pourquoi c'est lui qui cherche une femme pour Abraham? Abraham, il n'est pas grand. Assez grand pour se chercher une femme. Alors, je le disais, mais c'est un peu, c'est une anecdote un peu. C'est qu'en vérité, quand ils sont descendus de Moria, le patriarche désormais, c'est Yitzhak. Donc il est le père. Donc là, il est un père. Il doit chercher une femme pour ceux dont il est le père. Et donc, comme il est le patriarche, bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'Abraham, à ce moment-là, il fonctionne plus à l'intérieur du clan d'Israël. Puisqu'avec Agar, il va avoir des enfants qui ne seront pas des Juifs. Avraham Avinu, il s'appelle depuis qu'il a ce hé. Il est passé de Avraham à Avraham, il est devenu Avramon Goïm. Il est devenu le père d'une multitude de peuples. Alors, en un certain temps, je pensais que la multitude de peuples, c'était les 12 tribus. Mais ce n'est pas vrai. La multitude de peuples, c'est les Goïm. C'est ces gens que par la suite, Abraham va envoyer vers l'Est pour les faire partir du territoire qu'il veut donner à Israël. Pour qu'ils ne soient pas là et disent, nous aussi, on est descendants d'Abraham, on a droit au territoire. Il va les chasser, il va les... pas chasser, mais avant, il va leur donner des éléments pour les aider dans la vie. Mais il va les renvoyer vers l'Est. Ah, bien sûr, parce que Yitzhak est son successeur, il est celui qu'Hachem lui a dit, celui dont Hachem lui a dit, c'est lui, son successeur, il n'y en a pas d'autre.
Mais quand il est devenu le chef de tous les membres, de tous les peuples,
Il fallait qu'il épouse quelqu'un pour
oui.
produire des gens qui ne sont pas le clan d'Israël, puisque sinon il ne peut pas être Avramon Goïm.
Quel est le lien qu'on a là entre ces deux hommes dans mon cas? Quel est le lien?
Ouais, il a deux époques dans sa vie. Une fois, il est le Av, le premier des Avot, le clan d'Israël, mais il est aussi un père pour une multitude de peuples. C'est-à-dire les enfants qu'il va avoir avec eux.
Le deuxième instant de sa vie, deuxième.
En fait, il y en a même trois en vérité, parce qu'il y a avant, c'est Ishmaël, il y a désormais pour l'éternité, c'est Yitzhak, et puis il y a, à partir d'un certain moment, une production de peuples différents. C'est là. Tiens, il a. Bon. Qui est chez un être humain des époques différentes, c'est pas un
Les
pédo.
époques, certes, ça va être la troisième époque, il était quand même, il se sentait quand même responsable de
Non,
la deuxième époque.
non. Le
Ah oui.
responsable de la deuxième époque, c'est enfin de clan
Mais
d'Israël, c'est Yitzhak. Il a passé le relais, c'est lui, c'est plus lui.
il les cherche une femme, ils tombent sur Agar. Est-ce que ce n'est pas. Que ça ne nous dit pas le fait, c'est un petit peu une réhabilitation.
Eux? Non, mais
Derrière, il y a une
Fazal,
relation plus tard.
bien sûr, mais Fazal le font à ce moment-là l'éloge de Hagar et explique pourquoi elle s'appelle Ktura. Ktura, c'est l'encens. Et la Ktoret, c'est l'encens et c'est le korban le plus éthéré, le plus spirituel qui soit, sans aucune matérialité, puisque en fait, c'est un nuage d'odeur. C'est ça la Ktoret. Et on dit que Agar ne s'est pas du tout remariée entre-temps. Il y a beaucoup de temps, beaucoup d'eau qui ont passé sous les ponts. Elle ne s'est pas remariée. En théorie, si elle s'était remariée, si Abraham respecte la halakha, etc., il aurait eu du mal à épouser Agar. Il l'a épousée, elle aurait été à quelqu'un d'autre, et maintenant. Il la reprend, ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça.
Les conditions de possibilité de la Torah qui est sur le fond, c'est que ça va être tout disqualifié de la.
Possible que. D'abord, la réponse, j'en sais rien. Mais si je devais essayer d'expliquer, je dirais qu'on a tous du Yetzer HaTov, Yetzer HaRa. Et lui, Lavanne, c'est un roublard, c'est un voleur, etc. Mais quand il a vu que malgré tout ce qu'il a essayé de faire, tentative de meurtre et tout ce que, et de vol, etc., rien ne marche. Alors, peut-être pour un instant, le Yetziratov, il a gagné. Il a sorti la bracha. C'est tout. Et ensuite, il va redevenir le Lavan que l'on connaît avec Yaakov. Bon, mais nous aussi, on a des moments où on est mieux et des moments où on n'est pas bien. Enfin, moi, je ne vais pas parler de vous, mais bon. Oui, ce n'est pas la pourriture absolue. Il n'y a pas chez Lavan, il n'y a pas. De facto, il a tué personne. Il a essayé de faire échouer le projet de Yaakov. Bon, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de, si vous voulez, bon, il y a du vol. Un voleur. Alors, par la suite, donc, le mariage, donc Rivka et Yitzhak se rencontrent, et le pasouk dit, Vaïkach, excusez-moi. Donc il a pris Rivka et Vaïkach, ça veut dire il lui a donné des kiddushin. Mais les kiddushin, en fait, Eliezer avait déjà donné les kiddushin quand il lui a demandé est-ce que tu es d'accord d'épouser. Alors il était en charge d'en faire la femme. Mais comme il était un Eved, et un Eved, il peut pas vraiment être un Shaliach. Donc, ce qu'il a fait, ça servait seulement à réserver Rivka. Mais pour des vrais kiddushin, Yitzhak a refait des vrais kiddushin avec Rivka. Et ensuite, on nous dit, il a amené, Yitzhak a amené Rivka dans la tente de sa mère, Sarah. Et le pasouk dit, il a vaivéa Yitzhak à Ola Sarah Imo. Il a amené Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Vaikach et Rivka, donc il a donné des kiddushin, il l'a épousé, il a donné des kiddushin. Vati lo leisha, elle est devenue sa femme, donc il l'a épousée. Vayavéa, il l'a aimée. Vainachem Yitzhak, achare Imo, il s'est consolé de la mort de sa mère. Alors, Rachid dit, il l'a amené dans la tente de sa mère Sarah. Rachid dit, elle est devenue Dougmat Sarah Imo. Elle est entrée dans la tente, vous voyez bien, cette petite jeune femme-là, elle entre dans la tente de Sarah, la tente où la dernière occupante de la tente, c'était Sarah, 127 ans. Du haut de ces quelques années, la Rivka, l'Omar, Varei Sarah Imo. C'est-à-dire, et c'est exactement comme Sarah. C'est-à-dire, toutes les caractéristiques de la maison de Sarah, de la tente de Sarah, se retrouvent dès lors que Rivka est dans cette maison. Quand Sarah était dans la maison, il y avait Ner Dalouk, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat. Nous, on sait, dans le premier Beth Amikdash, on allumait les Nérotes tous les soirs dans la menorah et on mettait dans les Cette branche, on mettait la même quantité de combustible, d'huile, et le nerf Mahavi, il durait très très longtemps. Donc c'est quelque chose qui s'est reproduit un petit peu au Mantranuka, où la fiole, elle a duré. On avait déjà l'habitude. Mais en fait, il y avait beaucoup mieux chez Sarah. On allumait, ça durait la semaine. Et chez Sarah, chez Rivka, on allume et ça dure la semaine. Deuxièmement, il y avait Bracha Metsuya Be'issa. Il y avait une bénédiction dans la pâte. Alors, je ne sais pas exactement comment était la bénédiction, parce que dans la nourriture, il y a deux formes de bénédiction. Bénir, ça veut dire amplifier. Donc, ça veut dire qu'elle pétrissait 1 kilo et tout à coup, il y avait 10 kilos, je ne sais pas. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, elle pétrissait 1 kilo, et quand on mangeait, c'était tellement puissant que c'était comme si on avait mangé 10 kilos. Donc la bracha, elle est ou bien à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait une bénédiction dans la pâte. Même chose chez Rivka. Troisièmement, il y avait un petit nuage accroché à la tente de Sarah. C'est le même petit nuage qu'il y avait sur le Moria quand Avraham Avinu était avec Yitzhak pour lui dire à quelle montagne. Il lui avait dit Moria, c'est comme si vous dire c'était sur l'Himalaya. Ok, il manque pas de montagne là-bas. Donc pour savoir laquelle c'était, il y avait un petit nuage. Le seul Avraham et Yitzhak voyaient, les autres, ils ne les voyaient pas. Les autres, ça veut dire ni Eliezer, ni Ishmael. Et il y avait la même chose, ce petit nuage qui montrait la présence divine dans la tente en question. Tout ça s'est retrouvé chez Rivka. Et quand Sarah est morte, bon, tout ça a disparu. Et quand Rivka s'est intéressée, est entrée donc, c'est revenu. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, enfin, qui étonne les Mfarshim. C'est marqué donc, il a donné des kiddushin à Rivka, il l'a épousée et il l'a aimée. Le Netziv, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il l'a aimé? Il dit, de mezé dirtiv, vati lo leisha en nochacha ahava. Parce qu'elle l'a épousé, il n'y a aucune preuve qu'il l'aimait. Pourquoi? Shaya muchach lisana. Oui. Il était obligé de l'épouser. Parce qu'il n'y avait pas tellement de jeunes filles de sa famille. Il n'avait pas le choix, en vérité. Mishumachi, Utsraha Katoub le Faresh, Shematsamimena Koratruach, mais Ahava. Au point même d'oublier sa mère, quoi, quelque part. Donc, il y a une relation tout à fait particulière. Je ne sais pas si on l'a dit sur quelqu'un d'autre, je ne crois pas. Y avait une relation d'amour entre les conjoints en question. Donc, Dafka, sur ce couple dont on peut se demander vraiment quelle était leur relation, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment parler ensemble, là, la Torah, elle te dit, attends, il y avait de l'amour entre eux.
Pour définir l'amour.
L'amour, c'est que il a été impressionné par. Elle avait toutes les qualités.
Ça marche bien.
Oui, c'était parfait. Et donc, par la suite, on verra qu'ils ont néanmoins beaucoup de difficultés à communiquer, mais parce que c'est relativement facile à comprendre que avec ce que Yitzhak avait vécu, c'est pas quelqu'un avec lequel on peut parler normalement. Comme on ne peut pas parler normalement avec les gens qui étaient dans des camps etc., même s'ils connaissent la langue et tout, ce que vous voulez, mais bon.
Expliquer que Rivka est son, son la continuité de Sarah, qui a été son début, son... C'est pas d'intuition, elle a ça. Et je fais une adaptation dans la rue.
Rivka, elle était le chidour de Yitzhak. Et Yitzhak, en fait, il n'a pas digéré la mort de sa mère. Donc il est Rachidi. Rachid a l'air de le présenter comme si c'était normal. Enfant, un garçon, il devient tellement, il reste tellement attaché à sa mère. Mais là, la mère avait des... Donc, quelque part, dans l'amour d'un fils pour sa mère, il y a probablement toutes sortes de niveaux. On voit bien que Akadosh Baruch Hu, il décrit la relation avec le clan Israël à toutes sortes de niveaux, de fiancés, de mères, de filles, etc. Donc c'est vraisemblable que Rivka, des raisons... difficile à comprendre, mais probablement que Hachem avait décidé que ce couple-là devait se faire, c'était nécessaire, et donc elle avait toutes les qualités dont Yitzhak avait besoin. Ça. On ne dit pas ça sur Rachel et Léa. Les circonstances n'étaient pas les mêmes, il n'y avait plus l'attente de. On n'a pas mis Rivka, Rachel et Léa dans l'attente de Rivka ou de Sarah pour voir comment elle, qu'est-ce qu'elle allait se passer. Et on n'a plus, ben, on s'occupe plus de ça. Rivka, c'était celle qui doit remplacer Sarah. Mais elle, Rivka ne sera jamais, elle n'aura jamais avec Yitzhak le. La relation que Sarah avait avec Abraham ou Rivka Léa avec Yaakov, quand elles avaient quelque chose à leur dire, elles leur disaient. Rivka, elle ne va pas faire des reproches, elle ne va pas discuter avec Yitzhak. On ne peut pas discuter avec Yitzhak. Mais elle avait toutes ces qualités-là. Je ne peux pas vous dire pourquoi, comment.
Il a un résultat et ça y est, c'est contrôle de sa mère. C'est comme s'il y avait un relais qui était passé.
Oui, non, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, il était très attaché à sa mère et la perfection qu'on décrit de Rivka, c'est qu'elle, toute jeune qu'elle était, elle prend le relais d'une vieille femme. Tzadéket de 127 ans, et elle arrive, là, elle a au moins 100 ans de moins que elle, et elle est à la même hauteur tout de suite. Bon, alors, Sarah, elle n'était pas tout de suite à cette hauteur-là. Rivka, elle y est tout de suite. Donc, elle a probablement continué de grandir. On n'en parle pas. Elle a certainement continué de grandir. Elle a vraiment construit le clan d'Israël. Rivka est quelqu'un, j'ai déjà dit d'autres fois, Rivka, c'est la femme la plus, peut-être, la plus révolutionnaire de toute l'histoire juive, en vérité. Parce que si il y a un troisième patriarche, c'est à cause de Rivka. Parce qu'en fait, c'est Rivka qui devait avoir les douze tribus, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu parce que avoir les 12 tribus comme deuxième matriarche, ça impliquait que chacun des 12 fils allait être à 50-50. 50 Yetzer hara, 50 Et Rivka, elle dit, moi, je veux pas de ça. Rivka, elle va changer le programme divin, quasiment. Elle va dire, moi, je règle les problèmes. Je veux un enfant qui porte toute la positivité, moins un chouïa, parce qu'on peut pas, et un autre qui aura la négativité. Donc, elle a fabriqué Yaakov et Esav. Et du coup, elle a mis à ses nièces la charge de multiplier par 12. Multiplier Yaakov par 12. Et multiplier Esav aussi par 12. C'est pas elle, mais bien sûr que Esav aussi la 12 tribus. Donc c'est la femme la plus importante, si on peut parler comme ça, dans le dans l'histoire juive. C'est elle qui a fabriqué un Yaakov, quoi. Et d'une certaine manière, on peut dire que c'est elle le clan d'Israël. Parce que ce que Laban lui a dit, ça se réalisait de cette manière-là. Mais on a le contenu, on a dissocié, on a enlevé Laban, mais tu deviendras le clan d'Israël, elle devient, elle donne le clan d'Israël. Voilà, on s'arrête là. Non, dirais peut-être qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. À la fois personne d'autre que Agar. Et qui est-ce qui va prendre? Il va prendre une cananéenne, n'importe laquelle. Il a pris Agar, c'est l'alter ego de Sarah. Ils ont eu un conflit. C'est normal parce qu'elle, elle s'est sentie exister. Elle pense que, ouais, quelque part, je me suis trompé. Pour elle, le fait qu'elle ait un sein du premier coup et que Sarah, ça fait rasera, comme on dit, qu'elle n'est pas enceinte. Se dit, ma maîtresse, Sarah, n'est pas si parfaite que je croyais. Et donc, elle commence à être un peu. Ah, c'est une femme qui elle se sent exister parce qu'elle existe. Mais elle avait toutes sortes de qualités qui font, effectivement, elle est la femme possible pour ce pour. Contraire, je vous ai dit, on dit que du bien.
Il jette son fils.
Non, certains, il faut expliquer. Certains vont dire qu'elle s'est mise là, elle s'est mise au loin. Alors, d'une part, le fils, il est passé par un bébé, il a 17 ans. Hein. Et, mais comme c'est un excellent tireur à l'arc, elle pense, elle se met en, loin de sa, la portée de l'arc parce que peut-être il va la tuer si. Qu'est-ce que tu m'as amené là? Non, il pas agonisant, il risque de mourir, mais. Et à part ça, hein, certains expliquent effectivement tous ces dynimes que elle pouvait pas rester à côté de lui, elle n'avait pas le droit de rester à côté de lui halakhiquement. Je ne veux pas maintenant entrer dans le détail. On peut expliquer très halakhiquement la démarche de Dagar. Certains disent que c'était pas une bonne mère, si on peut parler comme ça, mais c'est pas si évident que ça.
Le chef de cette réunion de cette chadaïque, Omar a donné un marché, monsieur la fille ou la guitare. Si la femme ne part qu'elle touche, mais elle est dans la rose. Le bras sur le cercle, là, je crois que la femme qui sait, qui n'a besoin de pas de plus. L'autre, cette femme, par un moment, ne fait qu'elle plus mal. Il devait avoir fait à l'ordre, mais qu'elle fait des choses sur mon lit. Il peut me tirer par quelle aide pour avoir un minière par quelle aide par le débat. Bref, je n'ai pas celui qui fait la fonction de l'équipe. C'est pas de même, un c'est bien son plan.